RMC, M comme Maïtena, Maïtena Birabin.
Salut vous tous donc, ravi de vous retrouver dès 15h sur RMC pour parler de l'actu et rencontrer ceux qui la font. À 15h45, je reçois un menteur, un mythomane, un braqueur, un ex-tolard, aujourd'hui auteur, qui raconte son histoire dans un livre. Il s'est fait passer tour à tour pour le neveu de Kadhafi, puis pour celui de Bachar el-Assad, avant de braquer des bijoux et de finir en prison. Il s'appelle Alexandre Brandy. Il vient nous dire la vérité. Ou pas. Vous aussi, peut-être que vous pratiquez le mensonge comme un art. N'hésitez pas, appelez-le 3216. Mais d'abord, est-il encore possible de nous nourrir sans nous empoisonner? Des pesticides dans les fruits et légumes, des conservateurs du gras et du sucre à haute dose dans les plats cuisinés, manger devient une source de maladie. Que faut-il faire? Existe-t-il une solution? Est-elle abordable pour tous, cette solution? Vous avez changé votre manière de vous nourrir, vous tombez de l'armoire, vous ne faites plus confiance à rien ni à personne en matière de nourriture. Appelez-nous 3216. Nous allons vous mijoter la réponse. Jérôme et moi, oh la bonne blague. Vous attendons donc 3216 et sur Twitter, hashtag M comme M.
RMC, M comme Maïtena.
Les aliments ultra transformés seraient-ils toxiques? En partie, oui.
Des produits industriels contenant des additifs, des conservateurs ou encore des colorants. Trop gras?
Le gras, c'est la vie.
Trop salé ou trop sucré?
C'est pas très bon. C'est même très mauvais.
Aujourd'hui, le sucre est tellement répandu dans notre société que si on retirait des étagères d'un supermarché tous les produits qui en contiennent, il n'en resterait que 20%.
Nous avons observé que lorsque la part augmentait de 10% d'aliments ultra transformés dans le régime, on avait une augmentation d'environ 10% de cancer.
Maïtena Birabin.
Bonjour docteur Frédéric Salmane.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue, vous êtes nutritionniste, vous avez publié votre santé sans risque aux éditions Albin Michel. Vous avez, comme moi et comme nous peut-être, vu cette étude de l'ONG Génération Future qui dévoile que 3/4 des fruits et 41% des légumes portent des traces de pesticides. Ce week-end, Le Monde lui titrait à la une sur les risques de cancer dus à l'alimentation. Bah dites donc, ça va pas fort, hein. Ça a déjà été aussi pathétique qu'aujourd'hui, la nutrition dans ce pays, docteur?
Ben, disons qu'on vit de plus en plus vieux, ça c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Avant, quand vous preniez des choses qui n'allaient pas, ça n'avait pas le temps de produire des dégâts, on mourait avant.
Mm-hmm.
Maintenant,
ça
se bioaccumule tout doucement, c'est un peu comme le tabac.
Ouais.
Si vous fumez pendant 8 jours, il ne se passe rien.
Ouais.
Pendant 30 ans, 40 ans, à un moment donné, on arrive à une zone gâchette qui déclenche un cancer.
D'accord.
Or, beaucoup de ces pesticides, de ces des métaux lourds qu'on peut trouver dans des poissons,
ouais,
etc., vont se bio-accumuler dans le corps,
mm-hmm,
petit à petit, jusqu'à arriver à une dose qui va vous rendre malade, tout
Alors,
simplement.
Il y a ça, mais il n'y a pas que ça, puisque par exemple, les perturbateurs endocriniens, c'est pas une question de durée pendant lesquelles on les ingurgite, c'est le moment où on les ingurgite. Quand on est une femme enceinte, par exemple, pour le développement de son fœtus, c'est très très mauvais. Quand on est enfant, manger des perturbateurs endocriniens, ça va endommager la manière de grandir.
Oui, parce que d'abord, quand on prend un produit toxique, ça peut être un perturbateur endocrinien, tout dépend.
C'est quoi un perturbateur endocrinien?
C'est quelque chose qui va se faire comme si c'est des hormones, mais c'en est pas, et faire le grand bazar dans le jeu hormonal.
Ouais. Donc, dans le corps va croire qu'il
croire
un message, et puis voilà.
Et donc, il se fait avoir.
Mm-hmm.
Alors, si c'est un fœtus qui pèse 1 kilo,
oui,
ou un enfant qui en pèse 5 ou 10,
oui,
le rapport par rapport à un homme ou une femme de 70 kilos n'a rien à voir. Ça va faire une dose énorme pour un petit, alors que pour un grand, ça fait pas grand-chose.
Oui, donc le moment, il compte aussi selon
essentiel.
Ce qu'on a ingurgite, évidemment. Rodolphe est avec nous au 3216. Bonjour Rodolphe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Rodolphe.
Vous, je vous en prie, merci.
Vous nourrissez bien, vous?
Oui et non, enfin le mieux du mieux possible, mais c'est pas souvent facile, dans le sens où quand on travaille, bah des fois on n'a pas le temps.
Pas le temps de quoi?
Pas le temps de en prenant le temps de préparer à manger, de s'alimenter de manière équilibrée et variée.
Ouais.
Et par conséquent, des fois, bah, le midi, quand on est au boulot, bah, on mange des plats préparés, on mange des choses qui sont déjà toutes prêtes,
ouais,
et qui sont pas forcément les meilleures.
Ouais. Vous avez vu, à la Une du Monde, tous les produits transformés sont cancérigènes.
Et je suis bien placé pour vous parler, puisque je suis responsable de magasin dans la grande distribution alimentaire,
ouais,
et je vois ce qu'on reçoit. Je vois ce qu'on vend, je vois ce qu'on nous propose en termes de marchandises, et notamment sur les fruits et légumes, puisque vous en parlez, puisque
oui,
c'est d'où le rapport. C'est vrai que c'est hallucinant. Mais
qu'est-ce qui est hallucinant, Rodolphe? Dites-nous.
C'est de voir tous ces fruits et légumes qui ont une belle forme, une belle couleur,
ouais,
une belle présentation. Et pour arriver à tout ça, notamment avec des légumes qui sont même pas de saison, des fruits qui sont pas de saison, pour arriver à tout ça, il faut que ce soit traité avec des engrais chimiques et des pesticides.
Mais c'est, manger des fraises au mois de février, c'est sûr qu'il y a un traitement dessus, hein, ça c'est sûr et certain.
Mais le souci qui est le plus, j'ai envie de dire, qui est le plus grave et qu'on oublie souvent, c'est qu'on répond à une demande qui est considérable de production intensive, et pour produire de cette manière-là, il faut tous ces engrais, j'ai envie de dire, pourris pour la santé, quoi.
Vous avez l'air d'être hyper conscient, effectivement, de ce qui se passe sur les produits. Rodolphe, est-ce que vous les mangez, vous, ces produits?
Bah, pour tout vous dire, moi, tous les légumes et les fruits que j'achète, je les lave systématiquement. Ouais. Et de temps en temps, je sais pas si c'est bon ou pas, mais c'est peut-être des vieilles recettes de grand-mère. Ouais. Je mets un peu de vinaigre dans l'eau où je rince les légumes et les fruits parce qu'on me dit toujours que c'est meilleur. Ça a tendance à détruire un peu plus les pesticides qui sont à l'extérieur, mais qui sont pas à l'intérieur.
Alors, on va demander au docteur, hein, comme ça on sera au courant, on verra si les remèdes de grand-mère sont les bons. Est-ce que juste laver sa poire, par exemple, ça enlève les pesticides,
docteur? Rodolphe, je vais vous décevoir. Ouais. De laver la poire, ça change rien. Par contre, prenons une pomme. Il y a une trentaine de traitements aux pesticides. Si vous l'épluchez, vous allez vous débarrasser de 90% des pesticides.
Et des vitamines?
Non. Alors, pour garder les vitamines, épluchez radin, épluchez fin, parce que vous avez plus de vitamines en périphérie. Mais si vous avez épluché de façon fine, vous aurez les vitamines et pas les pesticides. Un autre petit conseil, tiens, sur une pomme.
Ce qui marche sur la pomme marche sur la poire, on est d'accord?
Sur la poire, c'est pareil.
D'accord, on épluche.
Quand il y a les taches marron, maintenant des pommes bio, faut l'enlever, c'est de la patuline, c'est cancérigène.
Ouais.
Donc, quand c'est marron, vous le jeter.
Vous savez, le petit bout, pas le fruit.
Non, le petit bout.
Le petit bout.
Vous savez, on dit une pomme chaque matin éloigne le médecin, mais Churchill disait oui à condition de bien viser.
Oui, c'est ça.
Donc, alors maintenant, il y a d'autres choses aussi. Si vous voulez laver, ça enlève pas. Mais vous savez, il y a toujours des alternatives. Le midi, vous prenez par exemple un avocat ou deux.
Oui.
L'avocat contient naturellement un taux extrêmement faible de pesticides du fait de sa peau,
qui est une vraie carapace. Bien sûr.
Eh bien, l'avocat, c'est comme le baume des intestins, c'est anti-inflammatoire, ça vous donnera une satiété formidable et un index glycémique, c'est-à-dire que ça fait pas sécréter par le pancréas du sucre.
Mm-hmm.
Donc, pour pas cher du tout, pour 2 euros, 3 euros, on prend deux avocats et on a très bien déjeuné.
Stéphane Guibaud va être avec nous dans un instant. Stéphane, il travaillait exactement dans ce que vous décriviez, Rodolphe, dans le marketing alimentaire, et puis il a basculé complètement dans l'autre sens. Peut-être, si vous avez le temps de rester avec nous, Rodolphe, comme ça vous entendrez Stéphane, qui tient un blog qui s'appelle désormais Je ne mange pas de produits industriels, et qui explique comment vivre sans manger tout ça. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez, Rodolphe, l'application Yuka, ça vous dit quelque chose?
Non, du tout.
Ah bah alors, je vois, quand vous avez encore, vous avez un petit peu de temps, vous pouvez rester avec nous.
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Super.
Problème,
alors, on se retrouve dans deux minutes sur au 32-16 et sur RMC. À tout de suite.
RMC, M comme Maïtena.
AXA.
Oui, je suis votre porte-monnaie.
Pardon ?
Je vais être cash. Je me sens vidé en ce moment, mais j'aimerais vous parler d'une offre juteuse qui devrait faire nos affaires.
Dans la vie, un porte-monnaie a rarement de bonnes nouvelles à annoncer. Mais pendant les additions gagnantes d'AXA, si vous souscrivez un contrat auto et un contrat habitation, AXA vous rembourse 6 mois d'assurance habitation.
Je suis plein de ressources.
Offre valable du 8 janvier au 30 avril 2018. Conditions en agence ou sur axa.fr/addition-gagnante. AXA.
Alors, où est-ce que j'ai mis cet ouvre-boîte? Il est pas là, pas là non plus. Ah oui, ah bah non, il est pas là non plus. Là non plus.
En moyenne, vous allez passer 34 820 heures dans votre cuisine. Autant bien la choisir. Jusqu'au 26 février, ce sont les prix bien faits chez La Paire. Et vous pouvez profiter de la pause de votre cuisine La Paire pour 1 euro seulement. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
Il y a toujours un mec quand tu lui dis « Eh, tu savais qu'en février, chez Red, ils font la fibre à 15 euros par mois ?» Il te répond
« Ouais, bah moi, je suis au ski. »
Ah ouais, il est au ski. Et qu'est-ce qu'il va faire au ski avec 15 euros? Un cours de 15 minutes? Louer un seul ski? Un bâton? Juste une chaussure? Alors que toi, t'as chopé la fibre pour 15 euros par mois à un prix qui double pas au bout d'un an? C'est le bon plan de rester surfer chez soi! Rendez-vous vite sur redbysfr.fr. En ce moment, la fibre, c'est 15 euros par mois sans engagement. Offre soumise à condition, réservée aux nouveaux clients jusqu'au 5 mars. Fibre sous réserve d'éligibilité, frais d'ouverture 49 euros, détails sur redbysfr.fr.
Si vous n'arrivez pas à désarmer 10 personnes à main nue ou à faire tomber un mur entier d'un coup de pied comme Chuck Norris, vous pouvez au moins avoir sa série limitée Fiat Doblo Greyline en étant le plus rapide chez votre distributeur. En février, Chuck Norris joue dans une série très limitée.
Fiat Doblò Greyline suréquipée avec système audio et navigation tactile, 3 places avant et peinture métallisée gris foncé à seulement 10 990 euros hors taxes et sans condition. Offre réservée aux professionnels hors loueur et clients grand compte jusqu'au 28 février chez les distributeurs participants. Détails sur fiatprofessionnel.fr.
Fiat Professionnel. Professionnel comme vous.
Ne ratez rien du foot sur RMC. Ce soir à 20h45, 8e de finale de la Ligue des Champions, Chelsea FC Barcelone et Bayern Munich Beşiktaş Istanbul.
RMC jusqu'à 16h. M comme Maïtena, Maïtena Birabin.
Bon, je vais pas vous mentir, hein. Je suis avec le docteur Frédéric Salman, cardiologue et nutritionniste, qui a publié Votre santé sans risque aux éditions Albin Michel. Vous avez vu peut-être cette étude qui était sortie par l'ONG Génération Future, qui dit que les pesticides sont sur nos fruits et légumes. La Une du Monde ce week-end qui nous disait que tous les plats préparés étaient cancérigènes. Et alors je fais mon outing, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis une fille qui achète mes légumes au marché et je les râpe. Et je pensais que nous étions tous comme ça. Docteur Salman, combien de personnes achètent, qui veulent une salade de carottes, achètent des carottes et les râpent à votre avis?
Vous faites partie des 2% des gens, et mais je pense que chez vous, il doit y avoir des patins pour avancer, pour pas abîmer le parquet.
Dis donc,
aussi.
Tu parles pas comme ça correctement de, il y a pas de...
C'était autrefois, il y a très longtemps.
Non, mais c'est pas
dans
possible.
Un autre monde.
Vous êtes sérieux? C'est un truc de vieux en de fait, acheter ses légumes et de les râper?
C'est fini, ça.
Oh, mais vous êtes, mais, ça veut dire que, vous tous qui m'écoutez, vous achetez des carottes râpées, dans du plastique? Saisonné déjà? J'arrive pas.
Et oui.
C'est très très étrange ce qui nous arrive là quand même.
Le monde a changé.
Ouais.
On veut plus passer de temps à préparer les aliments.
Ouais.
Parce que les carottes, dans ce cas-là, faut les éplucher.
Ah non.
Les laver.
Alors je fais partie du lobby qui vous le dit. Je prends en compète n'importe qui, n'importe quand. Le temps que vous enleviez le carton, que vous souleviez l'opercule, que vous mettiez vos carottes dans une assiette, j'ai épluché mes carottes et râpé mes carottes. Ça va hyper vite, hein. C'est hyper simple. Il y a un truc qui s'appelle un robot. Je vous assure, c'est hyper bien. Et mon assaisonnement vaut largement celui des produits industriels. Je suis hallucinée par ce que j'entends. Rodolphe, je vous ai parlé de l'application Yuka. Rodolphe est avec nous au 3216. Il est responsable d'un magasin alimentaire et vous nous disiez, Rodolphe, vous voyez tous ces fruits hors saison arriver et que vous faisiez aucune illusion, que c'était bien sûr gavé de pesticides et autres. Alors il y a Christophe qui nous envoie un message sur le site et il nous dit, j'utilise Yuka, une application qui est censée donner les additifs nocifs ou pas et toute autre indication, il suffit de scanner le code barre du produit avec le téléphone. C'est possible de faire ça dans votre enseigne, Rodolphe? Vous pensez...
Ah bah oui, vous venez avec un smartphone. Si l'application vous l'avez installée sur votre téléphone,
et bah voilà.
Vous pouvez facilement scanner tout ce qui a code barre. Mais quand c'est un légume qui est en vente en vrac, là il n'y a pas de solution. Peut-être les produits ou les légumes qui sont emballés, les légumes bio, souvent sont emballés.
Ouais.
Maintenant, pour revenir sur ça, le problème c'est qu'aujourd'hui on est dans l'Union européenne, mais le bio espagnol, le bio français, le bio hollandais n'a pas du tout les mêmes.
Ce sont pas les mêmes, oui, absolument.
Voilà, et c'est ça le problème. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux gens, parce que bon, je suis dans la proximité, dans le commerce de proximité.
Oui.
Je leur dis, variez le plus possible votre alimentation, que ce soit en hiver ou en été ou au printemps. Mais varier le plus possible et surtout manger des légumes. Arrêter d'acheter des pâtes et du riz tout le temps.
Manger de saison, bien sûr.
Après, c'est pas facile parce que on parle budget. C'est vrai que les budgets des fois sont assez serrés.
Dites-moi, parce que maintenant je fais une fixette moi sur les salades de carottes en barquette. Vous vendez plus de barquettes de carottes que de carottes toutes seules?
Ah bah, de toute façon, je vais vous le dire clairement, c'est ce qu'on appelle nous dans la distribution la quatrième gamme ou la cinquième gamme, et toute cette gamme-là se vend mais terriblement. Je veux dire, on est souvent en rupture sur les carottes râpées, le céleri rémoulade, etc. Par contre, les carottes en vrac, ça se vend très bien, mais ça se vend pour préparer dans des plats, mais non certainement pas pour les râper.
J'ai un scoop pour vous, le céleri rémoulade, c'est hyper facile à faire. Bon, Stéphane,
Bien sûr, c'est facile et c'est très bon en plus pour
c'est
la santé, c'est bon.
Alors on va donner la parole et je voulais que vous attendiez pour l'entendre à Stéphane Guibaud qui est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Maïtena.
Vous travailliez avec au passé dans le marketing alimentaire. Un jour vous avez pété un plomb, vous êtes passé complètement de l'autre côté. Racontez-nous Stéphane.
Oui, tout à fait. En fait, je travaillais dans le marketing visuel, donc pendant beaucoup d'années, ce que j'ai fait, c'est produire des emballages, des campagnes de communication pour, aujourd'hui je le dis avec du recul, déconnecter l'intelligence en fait du consommateur, puisqu'on les fait travailler sur impulsion.
Ouais, faire envie, ça s'appelle.
Tout à fait. Donc je suis un repenti de tout ça, de l'alimentation dite ludique et des alimentations qui n'utilisent que des améliorants techniques, puisqu'en fait ce qu'on cherche à la fin, c'est un profit, c'est un goût et pas du tout une alimentation cohérente.
Oui.
D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, parce que j'ai entendu ce que vous venez de dire, et moi, j'ai affaire à un public très militant de 20 à 28 ans aujourd'hui, qui sont, on va dire, la nouvelle génération de consommateurs,
oui,
qui, eux, ne vont pas dans les grandes surfaces, comme moi, et qui, eux, font leurs carottes à partir de carottes entières et qui les râpent.
Et Stéphane, vous entendez ce que vous me dites? Que de râper ses carottes, c'est un truc militant. Mais c'est un truc de fou. Mais on est dans un truc de fou, Stéphane. C'est un truc de malade.
Mais parce qu'en fait, il faut du militantisme pour arriver à casser cette habitude. En fait,
vous parlez de désobéissance alimentaire, carrément. Stéphane, vous avez fait un blog là-dessus. Vous avez, ça fait 17 ans que vous mangez plus rien de fabriqué, vous. Hein,
oui, c'est pour ça, oui. C'est pour ça que les éditions Erol m'ont demandé d'écrire le livre « Je ne mange pas de produits industriels
»,
parce qu'ils voulaient que je partage en fait ce point de vue, bon, professionnel aussi, mais consommateur, parce que les gens pensent que c'est impossible. Et moi, ça fait 17 ans, j'y suis allé par
étapes. Rodolphe, il dit, lui, il est tout à fait conscient, vous l'avez entendu, Rodolphe, il est tout à fait conscient de ce qui se passe, mais lui, il dit « on n'a pas le temps, c'est compliqué », etc. Vous avez un conseil à donner à Rodolphe, Stéphane ?
Que la notion de temps, c'est extrêmement relatif, et c'est justement les campagnes, c'est la société dans laquelle on vit qui nous a fait croire que les produits industriels coûtaient peu cher et que c'était un gain de temps. C'est faux et archi faux parce que moi j'ai quand même plusieurs, j'ai une génération et demie d'apprenants, d'anciens élèves qui ont pratiqué ça. Ils me disent, mais on retrouve le goût de la vie dans la cuisine, on retrouve nos enfants.
Vous êtes conférencier, vous aidez les gens à justement lâcher ce mode de vie où tout est préparé à leur place. Rodolphe, vous entendez, Stéphane dit que c'est, je crois, 20 à 30% moins cher de bien manger que de manger près.
Ouais. Ah, mais je suis à 200% d'accord avec lui et là-dessus je le rejoins. Moi-même, je reconnais que des fois, bon, ben, c'est la facilité de consommer des choses qui sont toutes prêtes. Ouais. Maintenant, quand je fais mes courses, comme tout le monde, je privilégie toujours les choses que je vais faire moi-même, faire à manger moi-même, découper des carottes, râper des carottes, les poireaux, etc. Mais aujourd'hui, je vois dans mon entourage le nombre de gens, et il le disait, la tranche des 20-30 ans aujourd'hui, ne sait plus faire à manger, ne sait plus s'alimenter correctement. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens obèses, qui ont des problèmes d'obésité en France, qu'on ne connaissait pas avant, et c'est dû à tout ça. Et là, et pour terminer, les produits aujourd'hui, le marketing, l'emballage alimentaire, c'est quelque chose qui est, mais j'ai envie de dire, c'est du grand n'importe quoi.
Ouais.
On pousse les gens à la consommation et à manger n'importe quoi.
Alors, je vais me tourner, messieurs, vers le docteur Salman. Quand on ingurgite, sans le savoir, des métaux lourds, quand on mange du poisson, quand on mange de la viande de cheval à la place du bœuf, quand on mange du PCB, du chlordécone, du mercure, de l'aluminium, du mycotoxine, de l'acrylamide, du caldium, on va pas bien après, non, docteur?
Ben, c'est pas le rêve pour la santé. Le problème, c'est naviguer au milieu de tout ça. Alors d'abord, une première chose simple. Moins manger. Vous savez que plus les gens sont gros, plus ils développent des cancers ou des maladies cardiovasculaires.
Oui, c'est parce que c'est en fonction de la proportion de ce qu'ils mangent.
Prenons les pesticides ou les métaux lourds. Si vous mangez très peu, vous en prenez pas beaucoup. Vous mangez beaucoup, vous allez en absorber beaucoup.
Oui, mais là, je suis en colère. Est-ce que c'est possible de manger sans en ingurgiter du tout?
Du tout, non, mais...
Du tout, non, c'est pas possible.
En absorbant des toutes petites quantités, on va rester dans l'infime. Mais si vous mangez beaucoup, on l'a vu d'ailleurs avec vous parliez des poissons, les gens qui mangent beaucoup de thon, par exemple,
on sait que c'est gavé métaux lourds.
Trop de métaux lourds, plomb, cadmium, mercure, c'est pas bon du tout pour le cerveau. Par contre, deux fois par semaine, un petit truc, ça passe très bien et on a son stock d'oméga 3 dont on a besoin. Donc la notion de dose est importante. Vous savez, 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus.
20% de vie en plus. On rappelle que toutes ces choses ont été mises en place, tous ces engrais, tous ces pesticides pour améliorer, si ce n'est la qualité du nutriment, en tout cas la production.
Oui.
C'était ça, hein, c'était produire plus pour nourrir tout le monde.
Produire plus pour manger plus.
Oui.
Bon, c'est pas une bonne histoire.
Non.
D'une part, il faut limiter ces quantités. Et aujourd'hui, on s'interroge aussi sur le jeûne séquentiel.
Mmh.
Vous savez que depuis des millénaires, on n'était pas à 3 ou 4 repas par jour. On était à 1 ou 2.
Avec une activité physique lourde.
Avec une bonne activité physique. Aujourd'hui, on est au moins à 3 repas.
Oui, on mange trop, on le sait.
Et l'organisme, vous savez, aujourd'hui en France, on meurt pas de manque.
Ouais.
On meurt pas de faim ni de carence, on meurt d'excès.
Ouais.
Il y a eu des travaux très intéressants qui ont été développés sur le jeûne séquentiel. Qu'est-ce que c'est? Vous décidez pendant 12 à 16 heures de boire beaucoup et de pas manger. Vous passez à
les
deux
Anglais
repas,
font ça.
Oui,
les Anglais font ça
au lieu de trois. Par exemple, vous supprimez le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner.
Ou simplement vous dînez très tôt, genre à 18h30, voilà. Et vous petit déjeuner à 10h du matin.
Eh bien, on s'aperçoit que ça donne des résultats intéressants. Ouais. Vous savez, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et plus on avance en âge, plus le risque d'erreur de copie augmente, donnant lieu par exemple à des cancers. Ouais. On a fait jeûner des souris comme ça un jour par semaine, elles ont fait tout de suite 20% de cancer en moins.
Alors on va continuer de parler des solutions. Merci infiniment Rodolphe d'avoir été avec nous au 3216. Merci Stéphane Guibaud, je renvoie à votre livre donc aux éditions Erol, Je ne mange pas de produits industriels, ainsi qu'à votre blog sur la désobéissance alimentaire. Merci à vous deux, on va parler... des solutions, des gens qui ont des idées. Je remercie d'ores et déjà Philippe d'attendre avec nous au 32-16. À tout de suite.
RMC, M comme Maïtena.
Près de 3 fruits non bio sur 4 présentent des traces de pesticides. Pour les légumes, c'est 4 sur 10.
Car nos fruits et légumes, qu'ils soient de saison ou pas, ils sont traités.
Des pesticides nocifs pour la santé à long terme, surtout pour les femmes enceintes et les enfants.
Les hommes qui mangent le plus des fruits et légumes qui contiennent le plus de résidus de pesticides ont un sperme de moins bonne qualité.
En Europe, les champions des pesticides, ce sont les Espagnols. Mais rassurez-vous, hein, enfin, façon de parler, on est juste derrière.
Maïtena Birabin.
Peut-on bien manger sans s'empoisonner? Je vous pose la question, messieurs, dames. Visiblement, ça devient très compliqué. Le docteur Frédéric Salmon est avec nous, cardiologue, nutritionniste, qui a publié « Votre santé sans risque » aux éditions Albin Michel. Vous me disiez, docteur Salmon, d'avoir été récemment aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez pu constater?
Alors, j'étais chez des amis pour dîner. Et, mais non, on dîne pas, on va au resto. Et je découvre avec stupeur qu'il n'y a pas de cuisine.
Il n'y avait pas la pièce, la cuisine?
Dans tout l'immeuble, oui. Ils ont supprimé les cuisines, l'immeuble neuf. Ils ont dit ça sert à rien, plus personne ne mange à la maison.
C'est dingue.
Et ils ont fait un immeuble sans cuisine.
Alors je vous pose la question, a-t-on envie de ressembler à ça? Je dis non, je dis non, je dis non. Philippe, bonjour, merci d'être avec nous au 3216.
Oh, non, bonjour, mais Philippe, je dis non non plus.
Ah, mais on veut pas.
Secours.
C'est quoi, ils sont malades ces gens?
C'est terrible. Elles sont très fortes, Eric, elles sont très fortes. Après, je disais Maïtena que moi, mais je suis désolé, mais j'achète des légumes congelés, non cuisinés, mais congelés.
D'accord.
Parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller éplucher ma chaîne, de sortir. J'adore les carottes râpées, mais j'en fais pas parce que
quoi?
Sur le robot, il faut le laver, voilà.
Mais laissez-le dehors.
Pardon?
Mais laissez-le dehors, le robot.
Ouais, laissez-le dehors. Mais t'es gentil, il faut le laver. Je claque des doigts, non?
Tu crois que j'ai une femme qui lave mon robot, moi? Je lave mon robot toute seule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y.
Donc, moi, j'achète mes légumes surgelés. Et puis, faut pas rêver. C'est un budget aussi. Tu achètes des carottes râpées, des carottes surgelées, c'est 1,89€, 1,29€. Là, il y avait le chou-fleur, on était en promo, le chou-fleur surgelé était à 2,39€, 2,39€, les 2 kilos.
Philippe, tous vos légumes, ils sont congelés, tous.
Comme ça, je suis tout seul, je fais ma soupe, le reste, je le mets de côté, je fais des carottes sautées,
Philippe,
je fais des carottes vichy,
Philippe, pardon, je peux pas. Samedi, vous allez au marché. Vous faites de la soupe et vous congelez dans un sac. Donc vous faites 10 sacs et vous avez de la soupe faite maison, tranquille, et c'est super. On va demander au docteur Salmon si c'est bon les légumes congelés. Et est-ce que c'est vrai que c'est moins cher?
C'est kiff-kiff en nutrition.
Ouais.
Parce que, en fait, et parfois vous allez trouver dans des légumes congelés ou en conserve plus de vitamines que dans du frais.
Ouais.
Pourquoi? Parce que la vitamine C, par exemple, est très sensible à la lumière.
Mm-hmm.
Donc des légumes qui ont traîné à l'étal, exposés à la lumière, la vitamine C chute, il y en a beaucoup moins, que le légume qui a été tout de suite congelé, tout de suite mis en boîte.
Et est-ce que c'est meilleur qu'un légume bio?
Alors, ça n'a rien à voir. Je parlais de nutrition.
Moi aussi, je parle
en
de nutrition aussi.
Non, nutrition, c'est pareil. Bio
c'est
ou pas
pareil.
Bio, c'est
d'accord.
Pareil.
Bon,
c'est juste
dit, vous
au niveau
avez gagné.
Des pesticides.
Donc, c'est un bon plan d'acheter ces légumes congelés. Oui.
Oui. Attends, le samedi, alors je m'excuse, mais je travaille depuis lundi.
Oui. Vous êtes artisan, donc forcément.
Non, je suis pas artisan, je suis employé, mais c'est pareil. Non, mais après, ça, c'est dans la vraie vie, pardon, il y en a un paquet qui sont comme moi.
Bien sûr, c'est vrai.
Taquet, voilà. Donc après.
Philippe, j'attire votre attention sur le fait que moi aussi, j'ai un travail, et je cuisine quand même. Eh ouais.
Pardon. j'ai pas dit ça. Hein. Alors... Mais c'est vrai que bon, voilà, voilà, je suis encore au table là depuis le matin, 5h30.
Non, non, mais j'entends, voilà, je comprends. Voilà. Hein. Alors, Philippe, écoutez, je vais vous présenter quelqu'un. Peut-être ça peut vous convaincre, je sais pas, on va voir. Gilles Bertrandias, bonjour, merci d'être avec nous, Gilles. Vous êtes vous-même maraîcher et vous êtes à la tête d'un collectif qui s'appelle le collectif Nouveau Champ. Il y a une semaine, vous avez lancé un label Zéro Pesticide. Alors, moi, je rappelle, et c'est très juste, on me le fait remarquer, Gilles, que je parle de pesticides. Il s'agit de résidus de pesticides hein, qui ont été trouvés sur nos fruits et nos légumes. Donc, voilà, donc il faut rester, faut pas non plus être alarmiste. Voilà. Alors, Gilles, zéro pesticide, vous, c'est sûr et certain, Gilles Bertrandias.
Bonjour à tout le monde. Donc, c'est bien zéro résidu de pesticides. Ouais. La nuance, effectivement,
est importante.
Ouais. Voilà. Donc, effectivement, c'est un label que nous venons de lancer avec plusieurs entreprises de production agricole dans le secteur des fruits et légumes et donc du maraîchage, et de l'arboriculture. Donc, avec une garantie qui est apportée aux consommateurs d'avoir effectivement zéro résidu de pesticides dans les fruits qui sont présentés à la consommation.
Et Gilles, on pourra trouver ça où alors, ce collectif Nouveau Champ? C'est partout en France?
Oui, puisque nous, à ce jour, donc les producteurs qui sont avec nous dans ce collectif se répartissent un petit peu partout en France et la distribution de nos fruits et légumes effectivement sera une distribution nationale. Oui. Donc nous aurons bientôt l'occasion, en fonction des saisons, mais de retrouver cette gamme de fruits et légumes dans les différents circuits de distribution.
Bon, ça,
les circuits spécialisés.
C'est la base pour la santé, franchement, manger de saison. Si vous devez retenir une seule chose de cette émission cet après-midi, c'est il faut manger de saison, c'est hyper important. On va vous reconnaître comment, Gilles, vous avez un label?
Oui, en fait, donc il y a sur chacun de nos fruits et légumes, donc il y a donc ils seront pour l'essentiel, pour la majorité, donc emballés en particulier dans les circuits de grande distribution. Donc on retrouve un macaron qui est vert fluo et donc avec une mention zéro résidu de pesticides qui se voit très fortement et la référence au collectif Nouveau Champ qui est notre collectif.
Voilà, merci beaucoup Gilles Bertrandias d'avoir pris le temps d'être avec nous pour nous faire connaître ce collectif donc qui a commencé il y a une semaine. Merci à vous Philippe d'avoir été avec nous, de nous avoir filé le tuyau, parce que bon, c'est une vraie info quand même, les légumes surgelés sont nutritivement parlant au moins aussi bons que les autres. Et puis j'ai Franck qui nous a rejoint au 32-16. Franck est restaurateur. Bonjour Franck.
Bonjour Maïtella.
Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Vous utilisez des produits frais vous Franck?
Moi je suis un restaurant traditionnel bureau ouvrier depuis 10 ans.
Ouais.
Et moi je fais un buffet d'entrée à volonté.
Ouais.
Donc du coup, j'utilise majoritairement des produits de saison et frais. Enfin, j'essaye.
Oui.
Même si pour varier la demande des clients, c'est pas évident de pâtisserie.
Bien sûr.
Et le nerf de guerre, ça reste le tarif. Donc c'est vrai qu'en étant sur une formule d'entrée de gamme à 13 euros, on peut pas tout le temps travailler du frais. Mais bizarrement, quand on met des carottes râpées maison, on a encore des gens qui nous demandent comment on fait pour avoir des carottes aussi oranges.
Ah oui.
On leur dit qu'on les épluche et qu'on les râpe.
Ah oui.
Et ils demandent ce qu'on rajoute. On rajoute rien. Donc,
Quel âge les gens qui vous posent cette question, Franck?
C'est la moyenne, c'est une trentaine, 30, 40 ans.
Ah, mais oui. Alors, docteur a l'air de trouver ça tout à fait évident. Docteur Salman, vous régissez?
Oui, ça fait partie maintenant des habitudes d'une nouvelle génération qui cuisine plus du tout et qui a la flemme de d'éplucher, de râper et de laver la râpe.
Oui, c'est laver la râpe.
C'est laver la râpe le truc. Pareil pour les jus de fruits. J'en ne presse plus. Ouais. Achète le jus de fruits tout prêt.
Ouais. Vous aviez...
Franck. J'ai développé un petit truc à côté parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des jeunes qui avaient entre guillemets, qui étaient en stage ou qui étaient en alternance ou des choses comme ça, qui n'avaient pas trop de moyens dans des boîtes de communication parce que où je suis situé, ça tourne beaucoup avec des stages longue durée. Et du coup, je voyais qu'ils prenaient quand même beaucoup des barquettes sur les magasins. Carrefour Market, Spar et Enco. Donc j'ai fait un système où j'ai acheté des barquettes un petit peu plus conséquentes, où on met à peu près 700-800 grammes avec des compartiments, et ils pouvaient mettre un œuf dur de la maison cuit maison, et une mayonnaise maison avec des légumes maison.
Et râpé. Ça a marché?
Non. Je faisais 7 euros au poids. J'ai été comparé, par curiosité, j'ai comparé le prix au kilo d'une piémontaise blanche et pâle demande vraiment ce que c'est et le prix est deux fois supérieur même sur des petits trucs.
Ça veut dire quoi? C'est ce que nous disait tout à l'heure Stéphane Guibaud, on a le cerveau qui est à l'envers avec le marketing. Franck, vous pensez?
Je pense qu'ils veulent pas attendre. Je pense aussi que le fait que ça soit sur un truc à 2-3 euros avec une formule ou un package à 6 euros, je disais qu'ils étaient en train de développer dans des petites supérettes comme ça des espaces où les gens
pouvaient manger en réchauffant sur place pour le prix de leur ticket. Moi, ça fait 10 ans que j'ai mon restaurant, donc je vois l'évolution.
Oui.
L'évolution, elle est quand même à ça.
Mais avant, il y a un vrai truc aussi. Et docteur, je veux bien vous entendre aussi là-dessus. Vous proposez une barquette qui est moins chère, qui est plus nourrissante, qui est meilleure pour la santé. Mmh. Simplement, Franck, le truc, c'est que ça a pas le même goût. Et que les carottes râpées, par exemple, en barquette, moi j'ai demandé, parce que j'ai fait mon enquête, j'ai fait ma fixette là sur les carottes, elles sont sucrées. En barquette, elles sont sucrées parce qu'il y a du sucre dans
elles sont molles.
Oui, ça, elles sont molles, c'est sûr, mais elles sont sucrées. Quoi, c'est... Donc, et si on fait une salade de carottes, nous, au frais, machin. Ça sera pas sucré, évidemment pas, docteur. Donc le goût, il est aussi hyper important.
Non. Non, et je vais vous dire pourquoi. On a fait une enquête sur les petits pois frais et les petits pois en conserve.
Ouais.
Tous les gens préfèrent maintenant les petits pois en conserve parce qu'ils ne savent plus ce que c'est que les petits pois frais.
C'est ce que je
vous dis. Donc le bon goût, c'est devenu les conserves.
Mm-hmm. Mais oui, non, c'est exactement ce que je voulais dire. Par exemple, il y a certaines recettes, je vous le dis moi aussi, que je fais avec des tomates en boîte parce que ça amène de l'acidité, alors que les tomates fraîches n'en amèneraient pas. Donc on a le goût de référence est devenu celui des produits manufacturés et industriels, ce qui devrait expliquer, Franck, l'échec de votre barquette. J'ai un message de Florian qui vit à Cracovie et qui nous envoie ce message. Ici en Pologne, quasiment rien de tout prêt. On ne trouve pas de fromage râpé, pas de lardons découpés. Et je redécouvre le plaisir de choisir les produits et surtout le plaisir de les transformer moi-même. Idem pour les légumes. Ici, rien qui ne soit pas de saison ou presque. Florian de Cracovie qui nous écrit ça. Peut-être qu'on est obligé d'être dans l'obligation, Franck, pour retrouver le goût des choses.
Je sors de chez Métro, il y a déjà des fraises.
Ah oui, oui.
Il y a déjà des fraises.
Les bonnes fraises de février.
Et les fraises sont moins chères qu'en pleine saison.
Ouais.
Donc, et vous allez à la boulangerie, vous prenez n'importe quelle boulangerie, et je défends mon boulanger sauce, je le défends pas pour ça. Mais il y a des tartes aux fraises. Il y a les fraisiers. Donc, à un moment donné aussi, si on respecte un tout petit peu. Mais d'un autre côté, je vais ajouter une dernière chose, parce que je vais pas monopoliser l'antenne. J'ai ma petite fille notamment, qui est donc avec son école à 500 mètres de mon restaurant. Elle a jamais mangé un truc industriel, pas un petit pot, pas un truc. Je lui ai toujours fait tout manger, des tripes, des rognons, du foie, tous les trucs avec un restaurant, c'est facile. Elle est passée à l'école, je vous jure que c'est vrai. La première chose qu'elle a fait la première semaine, quand elle est rentrée le soir, elle prenait un yaourt. Elle mettait du pain dedans je lui dis, pourquoi tu fais ça? Elle me dit, c'est l'école qui nous a pris pour qu'on ait quelque chose à manger dans le ventre. Et depuis maintenant, elle a 9 ans, donc l'âge du restaurant, ce que j'ai eu en même temps que le restaurant. Et depuis, je bataille pas. Et quand elle n'arrive pas à manger, que je fais des raviolis maison, que je fais des produits frais ou des produits, je prends une boîte de conserve ravioli, c'est infect, je le reconnais, j'en mange pas. Mais je bataille pas. Mmh. Et donc je me dis que cette génération-là, moi, je me rassure en me disant que peut-être, dans 10 ans, elle aura le goût qui reste de ce que je lui ai appris pendant 5 ans. Mais, le fait d'être à l'école et de voir qu'il n'y a aucun truc ou quelque chose qui sorte un petit peu du, ça facilite pas non plus.
Non, ça facilite pas. Merci infiniment, Franck, d'avoir pris le temps d'avoir été avec nous au 32-16 pour ce sujet qui est définitivement passionnant. L'éducation, on devrait la faire à l'école. Il y a des cours, nos enfants, certains d'entre eux, en tout cas, apprennent la valeur nutritive des aliments, etc. Et c'est là que ça devrait commencer.
Ils apprennent, mais la bonne éducation se fait en mangeant à la maison.
C'est l'exemple. C'est la valeur de l'exemple.
C'est l'exemple.
Si on voit ses parents cuisiner, on cuisinera soi-même.
Familiale, le soir.
Ouais.
Est-ce que c'est une table on va apprendre et surtout s'habituer à des goûts qu'on gardera toute sa vie.
Bien sûr.
Et c'est là que ça va se jouer. Ouais.
Romain est avec nous au 32-16. Romain, vous êtes vous aussi restaurateur. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Oui, très bien, et vous?
Bon, ça va. Je suis... Ouais, ça va bien. Je suis à fond sur les carottes. L'éducation, vous y croyez, Romain?
Moi, j'ai été éduqué comme ça.
Ouais.
Donc, j'ai toujours vu mon père faire son potager, se donner du mal pour qu'on ait quelque chose dans l'assiette qui ressemble à quelque chose. Donc du coup, j'en ai fait mon métier, restaurateur. Et moi, j'ai la chance d'habiter sur la Côte d'Azur où ma famille habite. Donc on a la chance d'avoir un terrain. J'ai aussi la grande chance d'avoir un beau-père qui est paysagiste, donc qui travaille au milieu du jardin, et qui se donne beaucoup de mal pour nous. Donc tous les jours ou tous les soirs, c'est en rentrant de l'école, on va faire un tour au potager. Donc les enfants, ils voient ce qui se passe dans le jardin.
Ils voient les choses pousser, ils les attendent.
Ouais. Alors, on le faisait pas au tout début. Quand j'ai eu mon fils, on le faisait pas du tout. Et effectivement, quand il avait dans l'assiette certains aliments qui sortaient des jardins, ça ne bottait pas des masses.
Ouais.
Derrière, on a eu la petite et on s'est dit, il faut vraiment qu'on s'organise pour leur montrer ce que c'est.
Et maintenant, bah, écoutez, forcé de constater que ça marche.
Bah oui, bien sûr.
Du début jusqu'à la fin, c'est eux qui cueillent, c'est eux qui...
Alors Romain, le truc c'est génial, mais évidemment tout le monde ne peut pas avoir un potager et tout le monde ne peut pas déléguer un bout de son potager à ses enfants. Donc dans ce cas-là, comment peut-on faire, docteur? Vous avez une idée? Parce que là, Romain, c'est le paradis, évidemment, c'est génial, mais si on n'a pas ça,
c'est si système D. Il faut essayer d'acheter des produits tout simplement au marché, si on peut, oui. où on va pouvoir les trouver. Le potager à soie, c'est idéal. Remarquez, j'ai découvert qu'il n'y a pas longtemps, il y a une entreprise qui s'est lancée pour faire des potagers dans les caves,
oui.
avec de la lumière artificielle, de oui. l'eau, etc.
Oui.
Pour les gens qui habitent
les villes. On peut faire pousser des tomates cerises sur un bord de fenêtre.
Oui.
Tout à l'heure, vous nous disiez que laver les légumes ne servait à rien, enfin, ne laver les fruits. Comment on fait avec les herbes, la coriandre, le persil, la ciboulette? On ne peut pas les éplucher?
Non, dans ce cas-là, je préfère utiliser des herbes bio,
ouais.
qui vont avoir pas de pesticides. Les laver, c'est bien par rapport s'il y a de la terre, mais on pourra jamais se débarrasser des pesticides, des résidus, oui. si on veut, en lavant.
Bon, la grande leçon, je le disais tout à l'heure, c'est manger de saison. Déjà, ça devrait aider un peu. Mais enfin, manger de saison, quand on achète des plats cuisinés, et c'est 22 kilos de plats cuisinés consommés chaque seconde en France. 700 millions de kilos de plats cuisinés achetés chaque année. Un Français sur deux achète au moins un plat cuisiné par semaine. Comment on fait pour manger de saison quand on achète préparé? On peut pas?
On va essayer de manger sain. Vous savez, déjà, on a quelques armes. Une, c'est le couteau pour manger sain. Un exemple, si on vous sert votre plat cuisiné, votre pizza par exemple, avec 3 cm de croûte brûlée,
oui.
eh bien 3 cm de croûte brûlée, quand c'est tout noir, c'est comme fumer 200 cigarettes d'un coup.
Ah oui, c'est bien ça.
Donc vous pouvez très bien vous dire, pour manger sain, il faut être aussi actif avec son couteau.
Ouais. Je suis triste de ce que j'ai entendu aujourd'hui, franchement, docteur. Alors, il y a des solutions, hein, et je sais que ça a l'air très compliqué. Vous vous dites, j'ai pas le temps, etc. Mais on va en reparler. Vous savez quoi? On va reparler de ce sujet. Parce que je pense que c'est absolument passionnant. Vous reviendrez?
Ah bah avec plaisir.
Il est dément ce sujet, donc déjà on peut aller lire votre livre, Votre santé sans risque aux éditions Albin Michel. On peut aller sur le site de Stéphane Guilbeault, Je ne mange pas de produits industriels, c'est paru chez Erol. Et il a un site sur la désobéissance alimentaire. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous au 32-16 pour discuter de notre santé. Merci à Romain, merci Frédéric Salman. Et je vais recevoir maintenant dans un instant un menteur qui s'est fait passer pour le neveu du colonel Kadhafi avant de devenir celui de Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, il raconte son histoire hallucinante. Alexandre Brandy, tout de suite sur RMC. Vous avez peut-être lu son livre. Il attend votre appel. 32-16. Merci, docteur.
Merci.
RMC, M comme Maïtena.
Parlons un peu de ce que vos parents font comme travail.
Maman est professeur.
Et ton papa?
Oh, lui, c'est un menteur.
J'ai appris le mensonge. J'ai appris à mentir.
C'est un jeu de mythomane.
C'est un jeu, oui, pour me désennuyer, pour rompre l'ennui qui était le mien.
Jusqu'au jour où son fils décida de faire de lui quelqu'un de sincère.
Je souhaite que pendant toute une journée, papa ne dise pas un seul mensonge.
Si ce livre n'avait pas trouvé d'éditeur, il est possible, oui, effectivement, que l'ennui me conduise à nouveau à récidiver.
Maïtena Birabin.
Bonjour Alexandre Brandy.
Bonjour.
Il y a longtemps que je mens est sorti chez Grasset. C'est votre premier roman avec un bandeau sur la couverture, deux photos. Vous maintenant, c'est bien vous effectivement. Et votre portrait robot à l'époque où la police vous recherchait, c'est votre idée ça?
C'est celle de mon éditrice.
Ouais. Et vous étiez d'accord avec ça? Ça vous gêne pas?
Non, ça ne me gêne pas. Je trouve que non, ça ne me gêne pas. J'aime cette idée.
Ouais. Est-ce que vous allez mentir, mitonner, inventer quelque chose pendant cette interview?
J'espère non. J'espère ne pas mentir.
Ça dépend.
J'aimerais ne pas mentir.
Ça dépend de quoi, Alexandre Brandy?
Des questions et de la possibilité de la vérité.
Ouais. Alors dans ce roman justement que vous écrivez, et je dis bien roman, c'est écrit dessus. Oui. Est-ce que tout est vrai?
Non.
Non. Il y a des choses qui n'ont pas existé, qui n'ont pas eu lieu, qui sortent juste de votre imagination.
C'est ça, ou des événements qui se sont produits et que j'ai arrangés pour qu'ils soient plus littéraires, plus beaux. J'ai arrangé une réalité.
tout à fait. Alors là, c'est la réalité qui vous a arrangé, puisque la justice vous a condamné à 3 ans de prison, dont 3 fermes pour vol avec violence, après que vous vous soyez fait passer successivement pour le neveu de Kadhafi, puis pour celui de Bachar al-Assad. Vous aviez quel âge quand vous avez fait ça, Alexandre Brandy ?
J'avais 20 ans.
20 ans à peine, hein, vous étiez tout jeune.
Tout jeune.
Tout jeune. Mais ça venait de loin, cette histoire. Vous rêviez toujours, vous avez imaginé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Kadhafi et Bachar al-Assad ? Vous le savez, ça ?
Oui, pour les noms.
Oui.
La puissance des noms, l'évocation de ceux-ci, qui était le sésame qui me permettait d'ouvrir toutes les portes de Paris.
Alors on va préciser, pour Bachar al-Assad, c'était bien avant la guerre civile.
C'était bien avant la guerre civile et le colonel Kadhafi était encore en poste.
Oui, bon, c'était quand même deux dictateurs, c'est des noms qui déclenchent la crainte.
Mais une excitation.
Ouais.
Beaucoup des agents immobiliers que j'ai rencontrés, des propriétaires, avaient envie de s'encanailler un peu. D'une certaine façon, avec ces noms.
Vous aviez 20 ou 17 ans, parce que j'ai l'impression que vous avez été, quand vous avez été passé au tribunal, vous étiez encore mineur.
Oui.
Et 20 ans, on n'est pas mineur,
non.
Alexandre.
On était mineur il y a encore quelques
premier
années.
Mensonge.
Oh non.
Non.
Non, 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 j'avais 20 ans, c'est la réalité. J'avais 20 ans.
Quand vous avez été condamné, vous aviez 20 ans.
J'ai été arrêté à 20 ans et condamné à 21.
D'accord. Alors, quand, évidemment, vous vous présentez aux agents immobiliers de Paris pour visiter des lieux extraordinaires auxquels, évidemment, personne n'a accès, sauf ceux qui veulent les acheter. Vous avez préparé votre dossier, vous connaissez parfaitement la Libye, par exemple.
Oui, la biographie de mon oncle supposé,
voilà.
les ressources du pays, le produit intérieur brut, enfin tout un tas de choses. Oui, j'ai incarné un rôle.
Absolument, et donc vous vous êtes donné les moyens, sauf un détail près, vous ne parlez pas l'arabe.
C'était ma seule faiblesse.
Oui, et elle a failli vous coûter très cher, puisque vous avez failli être démasqué.
Démasqué.
Et c'est un moment dans le livre qui est d'une immense puissance. Vous racontez... Alors ça, c'est vrai ou pas ce... Est-ce que ça existe?
Ce déjeuner à la brasserie Lippe est authentique.
Ok, donc...
Et cette scène également.
Michel est un homme qui veut vous faire plaisir, il veut vous séduire, il veut donc vous réciter un poème en arabe. Et vous savez que s'il vous récite ça, vous allez être fait, puisque vous ne comprendrez rien.
Et parce qu'il m'invite à réciter le dernier vers en arabe.
Et pour vous en sortir, vous allez l'humilier.
Oui.
Ouais.
C'était la seule façon de se sortir de ce traquenard, de cette impasse.
C'est vous ou c'est votre rôle qui humilie quelqu'un à ce moment-là? C'est d'une violence inouïe, hein.
Effectivement, et souvent on me parle davantage de cette violence. Ma mère a été, en lisant le livre, elle m'a dit... C'est pas bien ce que tu as fait, en parlant de ce Michel qui est humilié, et non pas du braquage qui arrivera quelques semaines plus tard.
Oui. Votre mère, elle a pensé quoi du livre? Vous n'êtes pas tendre avec elle non plus?
Je ne suis pas tendre avec elle. Mmh. Elle a aimé le roman.
Oui, ça l'a réparé, ça l'a consolé, ça l'a... C'est un quoi?
Ça l'a ému et ça l'a sans doute rassuré un peu de voir que son fils réussissait.
Oui, parce que vous écriviez.
Oui, parce qu'il était publié chez Grasset, notamment.
Oui, bien sûr, ça n'est pas rien.
Absolument.
Ça n'est pas rien. Béatrice a lu votre livre, figurez-vous.
Béatrice.
Et je proposais que quelqu'un qui aurait lu votre livre puisse vous en parler. Et Béatrice nous appelle au 3216. Bonjour Béatrice.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous Béatrice. Vous avez lu le livre d'Alexandre Brandy.
Oui, j'ai lu.
Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il vous écoute, je vous laisse vous adresser à lui.
Eh ben, j'ai adoré ce livre. J'ai été surprise. J'ai lu le Figaro littéraire et j'ai été intéressée par ce bouquin. J'ai une question.
Oui.
Quelle sensation vous aviez vis-à-vis quel sentiment aviez-vous vis-à-vis des agents immobiliers et de cette dame? Moi, personnellement, j'ai aucune empathie pour cela, sur ces personnages, et pourtant, je suis quelqu'un normalement de très moral. Et puis, j'ai pas du tout d'empathie pour eux. Comment ça se fait?
Alors, avant qu'Alexandre ne vous réponde, je vais raconter. Vous avez cette dame, c'est une dame que vous allez braquer avec un faux pistolet. Vous allez braquer également un agent immobilier et un serviteur. Hein,
Il y avait un majordome, une femme de ménage.
Donc, vous prenez, vous enfermez ces gens et vous volez des bijoux. Alors, comment se fait-il, nous dit Béatrice, qu'on n'ait aucune empathie pour ces gens, alors que vraiment, c'est vous qui n'êtes pas gentil?
Effectivement. Peut-être par le traitement de cette scène que j'ai rendue burlesque dans le roman, notamment cette femme de ménage qui se cache dans le panier à linge pour échapper au braqueur, cette propriétaire qui, à la vue du pistolet, se met à tourner sur elle-même.
Oui.
Mais je pense que l'absence de compassion que l'on peut avoir vient sans doute du fait... d'un châtiment qui a été imposé à ces personnes très riches. Enfin, c'est une chose que j'ai entendue.
Ça veut dire que...
Car je suis surpris moi-même du manque d'empathie que certains peuvent Oui, je suis surpris.
Mais en général, votre histoire suscite plus l'amusement que la réprobation. Vous racontez, alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux, un policier qui voudrait vous serrer la main.
Oui, qu'il n'ose pas. Effectivement, les policiers de la BRB qui m'ont arrêté 10 jours après la commission de ce crime étaient épatés par ce que j'avais pu faire.
Ouais.
Impressionné, fasciné. Il y avait une forme de respect mutuel.
Alors, on va rappeler qu'il y a une fausse violence, puisque l'arme est factice.
Oui, une fausse violence, oui. Il n'y a aucune violence physique.
Vous avez volé des gens, mais vous avez ensuite attendu qu'on vienne récupérer le butin chez vous, sagement, enfin, si on puisse dire. Vous décrivez dans le film, et Béatrice vient de nous en parler.
Dans le roman.
Dans le film. Mais
le film, peut-être, je l'espère.
Vous l'espérez. Allez vous poser la question. Dans le livre, vous décrivez votre famille, vous décrivez ceux que vous dupez, vous avez croisé des goujats, des gens courageux, des folles, un libraire antisémite, vous allez tomber amoureux, vous avez une aventure. Vous pensez quoi de tous ces gens aujourd'hui, Alexandre Brandy ?
Ah, j'y pense avec nostalgie. J'ai dû les recréer quand j'ai écrit ce roman. Ils sont revenus à ma mémoire.
Oui.
Et j'ai de l'affection pour certains. J'ai de l'affection pour ce Michel, notamment, que j'ai humilié alors.
Oui.
J'ai de la tendresse
vous
pour
êtes allé
lui.
Vous excuser ? Vous lui avez dit qui vous étiez ? Vous aimeriez le faire ?
Si nous nous croisons, peut-être, oui. Ouais. C'est peut-être pour lui, d'ailleurs, que j'ai des regrets.
Ouais.
C'est la seule personne que j'estime avoir blessée.
Vous dites que le remords, ça n'est pas pour vous, que vous n'avez pas cette morale-là.
Oui.
Oui.
Non, je n'ai pas de regrets, puisque j'ai désiré la chose.
Ouais.
Ça n'a pas été un accident, une faute, c'était une volonté. C'était une volonté. Et en cela, je ne peux pas la regretter.
Je suis sûre que Béatrice, comme moi, se pose la question. Vous avez, tout au long du livre, entretenu une aventure sexuelle avec une femme à qui vous offrez, sans qu'elle ne le sache, un des bijoux de votre braquage. Est-ce que vous l'avez revue ? Est-ce qu'elle sait qui vous êtes aujourd'hui ?
Je ne l'ai pas revue. Je ne sais pas si elle a lu le roman.
Oui.
Il ne me déplairait pas d'avoir de ses nouvelles.
J'adore. Vous avez toujours parlé comme ça, Alexandre Brandy ?
Aussi longtemps que je me souvienne, oui, ouais. Il y a longtemps que je parle ainsi.
En prison, vous avez reçu le prix du meilleur espoir masculin. Vous nous racontez ça ?
Oui, ben c'est à peu près la même fascination qui était celle des policiers de la BRB.
Oui.
J'ai fait quelque chose qui amusait les gens, qui a beaucoup amusé les gens. Et donc on m'a remis, oui, symboliquement, ce titre de meilleur espoir masculin, mais qui n'a pas eu de L'espoir aujourd'hui est littéraire, il n'est plus criminel il n'y a plus d'imposture aujourd'hui.
Vous racontez toute votre histoire, vous racontez également, vous nous quittez, vous sortez de prison, et vous dédiez ce livre à Claire. Qui est Claire ?
Ah, Claire. Claire a été pendant 7 ans mon amoureuse.
Ouais.
Elle m'a quitté il y a peu.
Ouais.
Avant la sortie de ce livre. Et elle en est la dédicataire évidente.
Naturelle. Elle savait votre histoire ?
Bien sûr.
Oui.
Elle a été l'une des premières personnes à qui je l'ai raconté.
Ouais.
L'une des premières à qui je me suis confié.
Vous racontez dans ce livre votre folle équipée, donc, et en parallèle votre enfance. Est-ce que l'une explique l'autre ?
Très certainement. Toutes les réponses aux questions des adultes se trouvent chez l'enfant.
Et c'est en matière d'excuses que vous nous racontez ça, ou simplement pour l'expliquer ?
Ce n'est pas une forme d'explication, ni une manière d'explication, cela fait partie de la forme romanesque,
oui,
qui est celle des auteurs que j'aime, que j'apprécie.
Et qui est très réussie, je suis sûre que Béatrice partagera mon point de vue. Vous avez désormais décidé d'écrire,
oui.
Donc si ce livre marche, vous en ferez un autre ?
Même s'il ne marche pas, j'en écrirai d'autres.
Ouais. Et c'est de ça dont vous vivrez ?
Je l'espère.
Ouais. Vous vivez comment aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'ai un peu d'argent de côté.
Ouais.
Et j'attends, je patiente, j'avance.
Donc là, vous avez raconté votre vie, vous allez raconter quoi d'autre dans le prochain ? Toujours votre vie ?
Sans doute, mais avec des parallèles. Mais la vie des autres me fascine aussi, m'intéresse. Et ouais. C'est une matière que j'aimerais utiliser.
Avant de trouver aussi romanesque que la vôtre, Alexandre Brandy, bien que la vie soit pleine de surprises, il va falloir vous accrocher. C'est chez Grasset, Il y a longtemps que je mens. Alexandre Brandy, on s'est absolument régalé en lisant ce livre, en vous rencontrant également. Puis on attend l'adaptation au cinéma. Hein ?
Nous l'espérons.
Mais je vous le souhaite. Vincent Moscato,
oh,
où es-tu?
Ah, Maïtena, oh, ben là, oui. on est partout en France. Bien entendu, on va parler de Fourcade, quel exploit.
Oh,
ah, encore
là,
un exploit, encore une médaille d'or. Cet homme est un phénomène, monsieur Brandy. Je lirai votre livre parce qu'il a l'air passionnant.
Merci,
voilà.
Monsieur.
Voilà. Allez, à tout de suite dans le Super Moscato Show.
Je t'embrasse, mon Vincent. Le Super Moscato Show, c'est tout de suite. On va se retrouver demain à 15h sur RMC, se réchauffer au cœur des banquises, se murmurer toutes ces bêtises. Et oui, les gars, on va s'aimer.
RMC, M comme Maïtena.